Alors, ces avancées technologiques sont toujours arrivées par l'informatique et par la puissance de fait de l'informatique. Le métier de statisticien, initialement, il a été transformé par ça. Autrefois, la puissance informatique n'était pas au rendez-vous, et donc on essayait de procéder à un protocole de collecte de la donnée parcimonieux, à base d'échantillonnage, à base de sondage. Et pendant très longtemps, le statisticien, parce qu'on parlait que de statistique à l'époque, procédait donc en fait par prélèvement d'informations. Et ce prélèvement, d'ailleurs, il était très bien pensé, il était théorisé, il y avait des protocoles de collecte, comment on allait interroger ou comment on allait faire de la mesure, par exemple sur les surfaces agraires, les agronomes font ça très bien, donc il s'agissait d'expérimenter, de mettre des formes d'expérience mathématiques. Donc la mathématique était très présente pour pallier justement l'absence de calcul informatique. Et il fallait penser longtemps à l'avance la collecte. Et avec l'avènement de la puissance de feu informatique, on s'est mis à engranger de l'information plus facilement et du coup à moins penser le mode de collecte de l'information. Et donc il y a eu les premières puissances de calcul. D'ailleurs, dans les années 60-70, le grand système est arrivé et ça a changé déjà le mode de fonctionnement de l'utilisation des outils statistiques. Il y a eu déjà des débats, il y a même eu des conflits. Je cite d'ailleurs dans l'article que je vais passer, il y avait les tenants de la statistique classique où on pose un modèle, on pose une hypothèse, et à la faveur ou à la défaveur de l'échantillon qui a été prélevé, on va valider ou rejeter le modèle ou l'hypothèse. Et avec justement l'avènement de la puissance de calcul, modeste encore, eh bien il y a eu une nouvelle science qu'on n'appelle pas la science des données, c'est l'analyse factorielle, l'analyse exploratoire de données, où là, on se permettait de rechercher dans les données des structures qui étaient intrinsèquement contenues, et c'était déjà une hérésie pour les tenants de la statistique classique, de trouver au gré des explorations des structures. Non, il fallait d'abord poser le modèle. Voilà. Donc déjà, première faille, premier changement de paradigme, comme disent les consultants, dans les années 60-70, hein, avec l'école française l'analyse de données. Maintenant, on appelle ça l'analyse géométrique de données. Donc premier choc. Ensuite, il y a eu un deuxième choc que moi j'ai vécu, c'est l'avènement du data mining. C'est lorsque les marketeurs se sont posé la question de mettre en place non pas marketing. Comment passer du la question qui a été posée, c'est comment passer du marketing de masse au marketing différencié, au marketing personnalisé, et justement faire usage de toutes ces données sur les clients qui n'étaient à l'époque que des données de gestion. Voilà, les transactions bancaires, les transactions d'achat, les remontées des cartes de feed, des minutes de téléphone. Et donc la question s'est posée, finalement, on va détourner cette information pour en faire une meilleure connaissance client et pour mettre en place un marketing différencié. Et là, il y a eu une conjonction entre les techniques de la statistique et les techniques de l'intelligence artificielle. Donc il y a eu un second cycle pour l'intelligence artificielle avec les réseaux de neurones, la régression, les arbres de décision, etc.
Donc là, on est autour de...
Les années 90, voilà. Années 80 et début des années 90. Et il y a eu un engouement et pour ça. Et d'ailleurs, les premiers à s'être approprié ça, ce data mining, ce sont les formations en informatique. Et pas les formations en statistique. Qui était réfractaire.
Et pas encore le marketing, etc. Ça restait vraiment
le marketing
technique.
Voilà. Et d'ailleurs, les équipes data mining étaient du côté des DSI et pas du côté des directions marketing. Donc ça marchait pas.
C'est ça.
Ça marchait pas à l'époque. Hein. Donc il fallait se battre, évangéliser, expliquer qu'il fallait mettre le data mining au sein du marketing avec les équipes chargées d'études marketing. D'ailleurs, cette transformation a eu lieu. Et donc on est dans les années 90. Et il va y avoir une reprise en main entre guillemets hein, des formations de statistiques, du data mining et les formations informatiques ont laissé tomber ça. Donc on laissait complètement. Donc c'est sorti. Moi je me souviens, j'étais allé faire une conférence à Vannes justement dans une école de statistique et les profs étaient contre le data mining. Et d'ailleurs je cite, j'avais demandé à un étudiant aux étudiants qu'est-ce que c'était que pour eux le data mining, ils avaient répondu en chœur que c'était de la mauvaise statistique pour les informaticiens. Sans comprendre que c'était un atout pour eux. Que d'ailleurs le métier allait changer. Parce qu'autrefois dans les entreprises, il y avait très peu de statisticiens, il y en avait au mieux un par service. Alors que maintenant, il y a des batteries
entières. C'est ça, ça reste vraiment technique.
Technique, voilà, technique.
C'était réservé.
Et à certains secteurs d'ailleurs, qui avaient besoin d'un statistique, mais les autres n'en avaient pas besoin. Et c'était un métier qui n'était pas compris, hein. C'était un métier plutôt rare. Alors quand il y a eu l'avènement du data mining, là, il y a les formations se sont démultipliées, les postes ont été créés, il y a eu des équipes entières de data miners, alors, surtout les grands secteurs, hein. La VPC bien sûr, la banque, la grande distribution, la distribution spécialisée, la téléphonie mobile, quoi d'autre encore, voilà. Mais surtout les grands comptes, hein. Voilà, grands comptes. Le middle market n'a pas pu s'approprier.
C'était pas accessible, c'était
trop cher. Trop cher.
Oui, et puis après, il y a eu l'avènement avec les GAFA qui, eux, ont de toute façon construit leur business model autour de ça.
Voilà, exactement. Exactement. Et justement, j'en viens à ça, la troisième choc, c'est la numérisation, la digitalisation de l'économie mondiale qui a démultiplié encore davantage l'accès aux données. Non plus avec des données dans les bases transactionnelles classiques de gestion, mais des données non structurées qui sont un peu partout. La donnée, pour moi, c'est le nouveau capital, hein, de toute façon, depuis fort longtemps. Hein. On a parlé d'abord de big data. D'abord, big data, parce que des données de toutes sortes, partout. En pensant que plus il y aurait de données, plus on allait savoir de choses. Et parce que l'idée, c'est en gros, hein, au data mining, c'est on a une mine de données, comme une mine d'or, et enfin, il faut trouver les pépites. Hein. Et là, plus on l'a, plus on a de chances de trouver des pépites. Et du coup, est née cette science de la donnée. On ne parlait pas de science des données au data mining. Hein. C'était plutôt une mutation du métier de statisticien qui s'attaquait à des bases transactionnelles avec des volumétries plus importantes, hein, déjà. Mais là, il y a vraiment un changement. La science des données, c'est en gros, est-ce qu'on a vraiment besoin de théoriser tout ça? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un modèle? Finalement, le modèle est dans la donnée. C'était déjà un peu en germe dans le data mining, mais c'est encore davantage là, aujourd'hui. La science des données, la donnée va nous permettre de mieux comprendre le comportement humain ou le comportement business grâce à des algorithmes de plus en plus performants qui apprennent, qui auto-apprennent, et là va émerger l'intelligence artificielle. Donc un second souffle encore pour l'intelligence artificielle, qui a eu plusieurs souffles d'ailleurs, hein, chaque fois ça retombe, là je ne sais pas ce que ça va donner, et donc c'est intéressant à suivre, et donc on a voilà en gros, hein, si pour répondre à votre question, les grandes vagues, on est à la vague là aujourd'hui, la science des données, voilà, avec l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs maintenant, on se dit plus data miner ou data scientist seul, on dit data scientist et intelligence artificielle, data science et intelligence artificielle. Dans les titres, dans les fonctions des directeurs ou des directrices d'équipe, on associe maintenant les deux termes. Hein, alors que jusqu'à encore quelques années, on parlait que de sciences des données, de data science.
D'accord.
Donc, je repars du statisticien. Hein, bon, hein, puisque j'ai 35 ans d'expérience, comme vous l'avez rappelé. Donc, on était uniquement sur les méthodes, la théorie. Et puis un savoir-faire informatique assez léger. Ensuite, le data miner par
contre. En fait, vous étiez mathématicien.
Alors, voilà ce qui est drôle, oui, je me suis remémoré mon parcours pour vous. Et en fait, avant d'être statisticien, j'ai en fait, comment dirais-je, exercé un métier dans une science sans données. La science sans données par excellence, ce sont les mathématiques pures. Et moi, j'ai commencé par les mathématiques pures. Et avant mes 35 ans d'expérience dans la donnée, j'étais prof de maths. Pur, quoi. Et je faisais de la science sans données. Pour les circonstances de la vie, j'ai fait une reconversion à l'époque, à l'issue. Mais c'était pas ma vocation. Mais les mathématiques persistent, hein, et signent, parce que pour autant, j'ai beau parler de la science des données, si on veut quand même maîtriser les algorithmes, il faut maîtriser les mathématiques qui sont derrière. Parce que si on veut, par exemple, faire un comparatif avantage, inconvénient des méthodes et avoir un panel de méthodes et d'outils avec, en sachant sortir l'outil au bon moment avec l'alternative qu'il faut quand il y a une faille, mathématique, ben il faut avoir cette compréhension-là. Alors l'expérience peut la livrer à force de travailler,
pratiquer. Pratiquer,
on sait que telle méthode marche mieux dans tel cas. Mais la compréhension intrinsèque vient de la compréhension mathématique. C'est pour ça que les mathématiques, d'ailleurs, c'est pour ça que les écoles d'ingénieurs aujourd'hui enseignent la science des données et l'intelligence artificielle, ce qui n'a pas été le cas de leur vie de travail. Il y a eu les formations informatiques ont voulu s'en emparer, les écoles d'ingénieurs un petit peu, puis très vite elles ont laissé tomber. Mais maintenant, elles ont une légitimité grâce aux mathématiques. Voilà. Alors, pour reprendre la question, donc le data miner, c'est un statisticien qui sait gérer des bases de données. Il sait utiliser du SQL, des choses comme ça, des langages de programmation. Et puis le data scientist va être un data miner, qui est lui-même un statisticien, donc on est comme des poupées russes emboîtées, qui a une composante supplémentaire, c'est les mathématiques. Même si le statisticien, la formation de mathématicien au départ est plutôt appliqué, il y a davantage cette exigence-là. Même s'il y a plusieurs déclinaisons du métier de data scientist, il y a pas, enfin c'est pas homogène non plus, on peut être data scientist plutôt versé sur l'analyse, plutôt sur la mathématique, plutôt sur la puissance informatique en tant qu'architecte ou en tant que data ingénieur. Là, maintenant, il y a un deuxième métier à côté de celui de data scientist, le data ingénieur, qui va lui plutôt s'occuper des data lakes, du contenant, des flux, de la puissance de calcul, de la paralysation des calculs. Donc, voilà.
Donc le statisticien d'il y a 30 ans, s'il apprend un petit peu les outils informatiques,
la programmation,
il saurait faire très bien le métier qu'on demande aujourd'hui au data scientist.
Ah oui. D'ailleurs c'est un statisticien à la base. Et maintenant, il y a aussi des mathématiciens. Mais pour moi, les mathématiciens, sans leur jeter l'opprobre, n'ont pas de familiarité avec la donnée.
Ouais.
Mais pas du tout. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une donnée. Du fait de leur formation. Hein. Mais par contre, on a des algorithmes qui seront extrêmement bons. Ils seront programmés des algorithmes. Mais vraiment. Bien sûr, il y a toujours eu un effet de mode qui retombe un peu. Hein. Il y a eu un emballement dans les années 90 avec le data mining. Il y a aussi un emballement avec la data science. Et d'ailleurs, avec une sorte de mythologie, de mystification, on pensait que l'intelligence contenue dans les algorithmes va tout résoudre. Hein. Donc ça va retomber de toute façon. Hein. Il y a toujours un recadrage par la réalité et la réalité des données. Et du métier, de toute façon, j'ai toujours connu ça. Mais c'est vrai qu'il y a donc des effets de mode, ça fait vendre des outils, ça fait faire des publications, etc. Donc c'est vrai, bon, on a connu ça à chaque fois. Mais pour autant, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment la connaissance de son... Grâce aux données, c'est vraiment le nouveau capital, hein. C'est vraiment ça. Et comment dirais-je ? On ne peut plus, les entreprises ne peuvent plus se satisfaire uniquement de la connaissance qui est issue de leur propre base. Ça, on le voit partout. Grâce à la numérisation de l'économie. Même le métier d'actuaire, que je connais plus ou moins, puisqu'à l'issue, on forme aussi à l'actuariat. Et quand je parle avec des directeurs d'actuariat dans les entreprises, ils me disent, autrefois, le métier d'actuaire, c'était en gros estimer le risque de sinistre ou d'accident à partir de tables qui sont produites par des institutions. Et on fait des calculs probabilistes. Mais maintenant, avec la numérisation, on va aussi étudier le comportement des conducteurs, parce qu'il y a des mouchards, entre guillemets, embarqués dans les voitures, ou même avec la voiture autonome. Donc il va falloir sortir de sa tour d'ivoire d'actuaire pour aller capter de l'information open data en dehors de l'entreprise pour finalement venir enrichir les modèles existants, même les rebattre, même les confondre avec ces nouvelles réalités. D'ailleurs, donc le métier d'actuaire, qui est un métier, on va dire, de scientifique, j'ai envie de dire, assis et en entreprise, il va devoir s'ouvrir au monde. Donc voilà déjà un exemple. Et ça, c'est vrai pour tous les autres métiers. Par exemple, je discutais avec un assureur qui me disait, par exemple, hein, ce qu'on a appelé en son temps l'analyse textuelle, ensuite le text mining, toujours pareil, l'analyse textuelle dans les années 70-80, le text mining des années 90-2000, maintenant on appelle ça l'analyse du langage naturel. Donc NLP, Natural Language Processing. Bien, de la même manière, les entreprises nous disent on ne peut pas se satisfaire de l'information dans les bases données, on veut savoir ce que disent nos clients. Alors, on les interroge à la faveur de la FAV, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'ils se disent entre eux sur nous ou entre eux sur la concurrence? Donc, voilà, le monde est ouvert. Donc, ils ont besoin, et maintenant, il y a une tendance très forte des entreprises à se mettre sur ce qu'on a appelé à un moment donné l'analyse de sentiment ou l'analyse de verbatim. Tout le monde s'y met. Donc voilà, pourquoi le marché se tend? Très bonne question. D'ailleurs, je trouve que les entreprises devraient toujours se la poser. Je ne pense pas qu'il faille, surtout pas, collecter de la donnée tous azimuts. Surtout pas, parce qu'on va être enseveli par l'avalanche de données. Pas du tout. Moi, je pense qu'il faut poser une question concrète, métier, et à partir de cette question concrète, métier, tirer le fil de la donnée. Déjà, où est-elle en interne et où est-elle à l'extérieur? Et aller la collecter hein, par les différents moyens dont on dispose aujourd'hui pour que cette donnée serve l'objectif qui aura été extrait de cette question. Et la question du chiffre d'affaires et de la rentabilité, c'est une question qui s'est toujours posée. Toujours. Et je me souviens moi très bien quand je travaillais dans les programmes de fidélité, on me disait que ça me rapporte quoi votre programme de fidélité? Mais c'est une vraie question compliquée. Mais on ne savait pas toujours y répondre. Alors on leur disait, écoutez, nous ce qu'on vous propose, c'est mettre en place un système de mesure qui va coûter de l'argent. En plus, avant de savoir si ça rapporte, ça va vous coûter un peu plus. Alors, c'est pas facile. On va laisser en jachère une partie de vos clients. Et puis, il y a une autre partie qui va être sollicitée par le programme de fil. Et on va comparer scientifiquement. Hein, groupe témoin, groupe contrôle. Ah ben mince, il va falloir laisser tranquille certains clients. Ça ne se fait pas dans le métier. Donc déjà, il y a... et ça, pour résoudre ce conflit-là, il faut... c'est une question d'organisation interne de l'entreprise. La réponse est dans l'organisation. C'est-à-dire qu'il faut que les directions marketing intègrent les services opérationnels, les services terrain, le SAV, le service commercial. Et tant que c'est cloisonné, tant qu'il y a une dissociation, ça ne fonctionnera pas. Et on nous dira, bah, ça ne marche pas, votre modèle ne marche pas, ça ne rapporte rien, ou je ne sais pas ce que ça rapporte. Ah, quand moi j'ai créé, enfin cofondé, soyons modestes, avec le directeur actuel de l'unité de VAM, la première licence Data Mining, dans son intitulé, je listais en fait les trois compétences. Statistique décisionnelle en marketing. Statistique, c'est-à-dire la maîtrise du traitement de données, l'analytique. Le décisionnel, ce sont les bases de données, les sources, donc il faut savoir les interroger. Et en marketing, le métier, sans le métier, il est au début du process, il pose la question, il problématise la question, et ensuite, il est en fin de cycle, c'est l'action, hein, c'est comment on actionne les résultats, comment on les mesure, comment on les valorise, et comment on reboucle selon le cercle vertueux cher aux consultants. Voilà. Donc, de toute façon, et bien souvent, alors c'est normal dans les formations, on ne se projette pas dans un métier, mais les rares formations où le métier est imbriqué avec la formation, c'est les formations en santé. Pourquoi? Parce qu'il y a une réglementation, il y a un protocole particulier, il y a une manière de traiter la donnée de santé qui est délicate. Mais ailleurs, ce sont plutôt des formations généralistes. Moi, j'interviens aussi dans une licence de data mining sur Paris, et généraliste. Et alors que celle de VAM, elle est généraliste, appliquée au marketing.
Oui, le terme licence professionnelle.
Voilà. Et il y a des marketeurs qui interviennent. Et on travaille que sur des données clients. Alors je dis qu'elle est généraliste au sens où quelqu'un ne pourrait très bien ne pas travailler dans la connaissance client après. Parce qu'il est un étudiant, une étudiante aura tous les outils pour faire autre chose. Mais c'est quand même... Et moi je trouve que la méthodologie, voilà, ce qui manque souvent dans les formations, d'ailleurs, je vous embête en MBA, c'est la méthodologie. Et la méthodologie, c'est ce process avec des étapes et un fil d'Ariane qui doit permettre de répondre concrètement à des questions concrètes. Et par rapport à votre question de tout à l'heure, il y a des entreprises qui m'ont demandé, il faut qu'on fasse du big data. Absolument. Pourquoi? Pour l'image, parce que c'est important. Mais quoi? Ah, je sais pas, on va faire du big data. C'est voué à l'échec. On a parlé, on a vanté, survalorisé le métier de data scientist. On listait tout ce qu'il savait faire. Il était omniscient, omnipotent, etc. Et là, ma réaction, c'est de dire, le data scientist tel qu'il est décrit dans la presse n'existe pas. C'est l'équipe data scientists qui existent, où il y a effectivement le matheux, l'algorithmicien, le statisticien, l'informaticien, le métier, le chef de projet, etc. Là, oui, ça fait sens. Mais un individu seul ne pourra jamais déployer toutes ses compétences. C'est quasi impossible, quoi. D'ailleurs, ça serait même pas raisonnable. Les CRM soient bien faits, en fait. Déjà, il y a déjà de grosses lacunes. Et il faudrait que l'information soit correctement collectée, que les commerciaux ou le personnel de terrain soient aussi impliqués par ça. Il y a déjà ce problème-là. Souvent, dans les CRM, il n'y a pas grand-chose, c'est mal fait, surtout en B2B. C'est inexploitable. Donc avant d'aller chercher de l'information à l'extérieur, déjà bien renseigner l'information qui est censée être collectée par le CRM, par les process CRM, il y a déjà ça. C'est vrai, donc déjà premier point. Alors c'est vrai que c'est plutôt plus ou moins bien fait hein, quand même, hein, mais pas si bien fait que ça. Et après il y a le fait, il y a aussi les sources extérieures, mais il ne faut pas les collecter tous azimuts. Toujours pareil, il faut que la collecte soit toujours orientée par rapport à une problématique la plus prégnante qui soit. Par exemple, il y a des entreprises qui se posent la question de l'open data, comment venir enrichir les bases actuelles de connaissances par de la donnée externe, qui est déjà de la donnée valorisée par des organismes qui mettent à disposition des villes, des agglomérations, pour la géolocalisation, etc. Donc il y a déjà aussi ce process-là qui est en cours. Je le vois de plus en plus dans les fiches de poste ou les fiches de stage ou les fiches d'alternance d'entreprise, la composante open data, de plus en plus pour venir enrichir, et on demande aux étudiants de réfléchir à ça. Mais il ne faut pas réfléchir tous azimuts, sinon on va encore se noyer. Après, il y a par exemple, moi j'ai une entreprise qui aide les enseignes à s'implanter dans des zones de marchandes et qui se pose la question effectivement de l'open data, ça va plutôt de soi, et d'enrichir les modèles actuels de données aussi non structurées. Je me souviens aussi d'une société qui cherchait à monter un score de promotion dans le bâtiment pour monter les sièges sociaux, par exemple, d'une entreprise, et qui suivait les fusions-acquisitions qui pouvaient avoir lieu. Ça, c'est de l'information qu'on doit capter, qui est volatile. Et à travers des déclarations d'entreprise sur les intentions de fusion-acquisition, essayer de dire, tiens, il y a un projet de fusion d'acquisition, donc essayer de se positionner avant la concurrence. Vous voyez jusqu'où ça peut aller? Ça, c'est du data marketing. Au sens où on l'entend, au sens big data, pas au sens du big, mais au sens de la data qui n'est pas inscrite quelque part. Et c'est presque de l'information grise. C'est-à-dire qu'il faut trouver l'information avant la concurrence. Parce qu'il y a des brokers d'information qui vont collecter tout ça et qui la revendent. Mais bien sûr, les entreprises vont acheter cette information. Elle est nécessaire. Mais l'acheter, ça veut dire que ces entreprises-là sont au même niveau que la concurrence. Et aller chercher de l'information qui traîne sur les réseaux, qui n'est pas grise au sens qu'elle n'est pas illicite, mais elle n'est pas monnayée déjà. Le RGPD nous ramène à notre questionnement big data ou smart data, et impliquons le client, que devient un acteur conscient et qu'il ait aussi accès à ces données. Les données qu'il génère, qui sont utilisées par les entreprises, lui appartiennent encore. Alors évidemment, elles sont valorisées, on peut dire oui, mais elles ont été retraitées, oui, mais c'est plus exactement la même chose. Mais personnellement, je prône pour que le consommateur ou le client ait un accès à ces données, au sens qu'il sache exactement ce qu'on en fait et qu'il connaisse ses scores. Je vois pourquoi on cacherait ces scores. Attendez, les outils actuels, les technologies poussent de plus en plus vers en fait la smart data et aussi la personnalisation. Alors il faut faire attention avec l'hyper-personnalisation parce que ça peut, il peut y avoir un côté intrusif, mais c'est vrai, si le client est conscient et d'accord et reconnaît les avantages qu'il peut en tirer sans se sentir trop à découvert non plus.
Oui, c'est ça.